Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Vous êtes sur Radio G, il est 20h01, H-1 presque, avant la rencontre de l'équipe de France, qu'on va débriefer évidemment avec moi ce soir pour cette émission. J'ai Paul. Salut Paul, comment tu vas?
Salut Mathéo, comment tu vas toi?
Bah écoute, super, un peu hype, un peu de tension forcément avant cette rencontre, mais très content forcément, la Coupe du Monde a débuté. T'as pu suivre un petit peu j'imagine quand même?
Un petit peu les matchs, ouais, même si bon, les heures tardives sont pas très très cool, on va dire, pour les nouveaux suiveurs de football européen. Donc non, même j'ai pu regarder un peu quelques matchs, donc oui, pour l'instant ça commence bien. On a un peu de football quand même, on peut pas se plaindre.
C'est vrai que c'est un peu compliqué par rapport à la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, enfin au Qatar, pardon, oui. En Arabie Saoudite, n'importe quoi, au Qatar, qui était très différente. On avait des matchs à 11h, à 15h, à 18h, c'était cool. Là, on est vraiment sur des horaires de nuit, donc c'est un peu chiant. Est-ce que tu fais du rattrapage un peu des fois ou pas?
Bah, je regarde les petits résumés de Bein qui sont d'une minute ou deux, très petits, ça change pas mal, mais on regarde quand même un peu, tu vois.
On va en parler de toute façon de cette Coupe du Monde. Il s'est passé déjà pas mal de choses en à peine 5 jours. Mais avant ça, on va forcément parler un petit peu d'actualité locale. Alors, la plupart des compétitions sportives sont terminées. Mais on a quand même des rumeurs d'été, notamment au SCO, hein, puisque la période du mercato bat son plein. Et en une semaine, il s'est passé pas mal de choses. Avec pour commencer la nomination au poste d'entraîneur de Stéphane Guili jusqu'en 2028. Lui qui était libre, hein, depuis son départ du Paris FC en février. Le SCO a dans la foulée officialisé la prolongation de contrat d'Aris Belkebla jusqu'en 2028. Et puis dans le sens de l'officiel, le SCO a enfin annoncé l'arrivée d'Anthony Lopez au poste de gardien. Lui qui sort d'une très belle saison au FC Nantes vient remplacer un Kofi retourné à Lens qui demande environ 4,5 millions d'euros pour le lâcher. Belle pioche quand même Paul.
Oui, très belle pioche quand même, Anthony Lopez qui a un gardien d'expérience, on peut pas dire le contraire, qui malheureusement bah du coup a vu une descente avec Nantes, mais quand même une bonne expérience, donc je pense qu'il va faire du bien à l'équipe. Et bah comme tu l'as dit, Kofi, c'était trop cher, c'est dommage quand même, parce que bah 4,5 millions c'est fait beaucoup pour le club, mais bon, malheureusement c'est les prix, donc c'est dommage pour Kofi, mais bon, Lopez va faire du bien je pense.
Sachant que les 4,5 millions aussi c'était une sorte de posture privilégiée, parce qu'on rappelle le SCO du coup avait voulu inclure une option d'achat dans le prêt de Kofi l'été dernier qui avait été refusé par la DNCG, d'où le fait que Kofi ne reste pas. Ça a quand même été un joueur majeur de Nantes l'année dernière, Lopez, qui les sauve potentiellement d'une dernière place aussi.
Oui, ça a souvent été parlé de ça. Oui, sur Lopez, ça a quand même fait une bonne saison du côté individuel, il a quand même fait une bonne saison, mais derrière, oui, Nantes a malheureusement été très mauvais sur le terrain, on peut dire quand même pour finir avant-dernier. Bon, il a pu, comme tu le dis, peut-être sauver un peu ces dernières places qui auraient été vraiment très compliquées pour le club.
On verra ce que ça donnera donc Anthony Lopez au SCO qui a du coup annoncé aussi le maillot gardien de cette saison, ce maillot bleu qui est assez beau je pense. Voilà, petit achat peut-être en devenir du côté de ma personne, supporter lyonnais que je suis. C'est aussi fait du coup pour Anthony Bermond, donc ça a été annoncé là il y a 2-3 heures, l'international français U20 donc qui a maintenant 21 ans, qui est prêté par Lens donc pour une saison sans option d'achat. Toi tu le connais Paul? Non, pas forcément.
Pas forcément du tout, mais oui, bah comme tu dis, U20, donc jeune qui peut faire du bien je pense, donc si Lens nous le prête c'est pour une bonne raison. Je pense que quand même il y a une bonne entente entre les deux clubs, je remarque quand même depuis une saison, entre Kofi, Koyalipou, du coup c'est arrivé, donc c'est très bien, je pense il va faire du bien j'espère.
On verra ce que ça donnera donc, notamment connu pour son prêt à Annecy en Ligue 2, c'était il y a un an ou deux ans. Du côté des rumeurs maintenant, on l'apprend aujourd'hui grâce à Mohamed Toubachter, le SCO a lâché les pistes Jacques Siwe, donc du Rubin Kazan, qui pourrait rejoindre Nice, et Afimiko Pouloulou. Des joueurs offensifs devraient aussi être ciblés, tout comme un milieu de terrain pour pallier donc le départ potentiel de Yacine Beldim. C'est le Courrier de l'Ouest qui l'annonçait hier, le joueur de 24 ans, auteur de 2 buts et 2 passes décisives dans 27 rencontres de Ligue 1 l'année passée, et qui a prolongé son contrat en juin dernier, voudrait finalement quitter le club. Plusieurs formations allemande, italienne, espagnole, française, belge et anglaise voudraient le joueur. Le Werder Bremen avait d'ailleurs fait une offre de 8 millions d'euros l'hiver passé, une vente donc presque obligatoire pour le SCO qui pensait aussi à vendre Ekomier pour renflouer les caisses du club. Le SCO qui pourrait donc empocher jusqu'à 10 millions d'euros. Ça va être un cadre à remplacer, Paul ? Compliqué quand même de perdre Belgium.
Bah, très compliqué même parce qu'il fait quand même, tu l'as dit, une très bonne saison. 2 buts, 2 passes pour un milieu de terrain, c'est très bon, je trouve. Et puis, du coup, bah oui, ça va être très compliqué à trouver un joueur de son rendement qui était quand même capable de jouer à la fois au milieu de terrain en double pivot et à la fois un peu sur ce côté comme il a été fait pendant une très bonne partie de saison où il a été très bon quand même. Je me rappelle de son match à Nice où il est excellent, il marque un but. Donc, non, ça va faire beaucoup de mal s'il part, je pense. Et comme tu l'as dit, bah, du coup, si on doit, il doit être remplacé, bah, c'est, faut espérer par un joueur qui aura peut-être de l'expérience aussi, qui pourra très bien s'investir dans le groupe. Donc, faut espérer que s'il est remplacé, ce soit de la meilleure des manières.
On verra ce que ça donnera. Mmh. C'est vrai que ça va être compliqué. Le SCO qui dépense pas non plus d'argent. Oui. Donc ça va être aussi un questionnement par rapport à la suite de la saison. On verra ce que ça donnera. Il y a énormément de chantiers pour le SCO quand même sur ce mercato.
Ah, toujours. C'est ça le problème depuis quand même 2-3 saisons. C'est qu'il y a quand même toujours des départs, des ventes qui sont intéressantes, du coup, qui se font. Du coup, ce qui fait que derrière, bah, même s'il y a un peu d'argent, ça suffit pas pour acheter. Du coup, il faut quand même, bah, du coup, trouver des bons coups. C'est surtout ça, en fait, je trouve, ces dernières saisons, c'est les bons coups. Tu regardes Mouton l'année dernière, c'est un très bon coup au final parce qu'il fait une très bonne saison. Kofi, énorme coup quand même parce que bah, c'est lui le meilleur joueur de la saison et sans lui je pense que ça doit être très très compliqué de tenir en Ligue 1. Donc non, c'est, je pense que la cellule de recrutement marche très bien quand même et il faut espérer que ça continue cette saison.
Pas mal de postes hein, à cibler, des joueurs offensifs, ailiers, buteurs, on aura aussi un milieu terrain forcément, même deux milieux terrain vu que Van den Bomen va partir. On a notre gardien déjà, c'est quand même une belle chose. Avoir aussi si Ousmane Camara, Jacques Écommier ou quelques joueurs défensifs quitteront le SCO. Ce qui est bien aussi avec Angers, c'est que il y a quand même un gros vivier de pépites. Preuve en est avec la magnifique saison des U17 et leur très beau parcours en championnat de France, hein, arrivé en finale pour la première fois de l'histoire du SCO dans cette catégorie après avoir battu Clermont. Les Angevins se sont finalement inclinés dimanche face au PSG 2-0, pas titre mais de la fierté quand même plutôt légitime. C'est cool aussi de savoir qu'il y a du backup comme ça sur des U17.
Bah même U17, U19 aussi qui ont fait une très bonne saison, qui ont été en quart de finale de play-off si je me trompe pas. Donc non, comme tu dis, oui, c'est très bien de voir que la formation marche bien, que ça évolue. Et puis même on l'a remarqué la saison dernière avec les Prosper Peters, Laura Machine et même bah du coup Sheriff qui a quand même été vendu à un bon prix. Ça montre que la formation marche très bien et qu'il faut du coup que le club se repose un peu dessus ces dernières années. Et c'est pas mal parce que bah ça montre qu'on a un club formateur assez prometteur, je pense, pour les prochaines saisons.
Ouais, on verra ce qui se passera au niveau de la formation. Effectivement, on suivra ça de très très près pendant la préparation. Préparation qui devrait débuter à la mi-juillet, comme d'habitude. Mi-juillet, ça sera la fin de la Coupe du Monde, mais on est là à un mois, donc on n'en parlera évidemment pas de la fin de cette Coupe du Monde. On est très heureux de pouvoir vivre au jour le jour toutes les rencontres, puisqu'elle a commencé cette Coupe du Monde depuis jeudi. Et la victoire du Mexique sur l'Afrique du Sud au légendaire stade Azteca, qui a accueilli alors tant les victoires de Maradona, de Pelé dans la plus grande compétition sportive du monde. Les hostilités sont désormais lancé, 5 jours que nous ne dormons plus pour suivre des Canada-Bosnie, des Haïti-Écosse et bien d'autres. Alors nous allons y revenir étape par étape avec ce qui, selon nous, constitue les premiers grands actes de cette Coupe du Monde, ceux qui donnent le ton. On le sait, le premier match, c'est souvent un bon indicateur pour la suite de la compétition. On va forcément commencer par les grandes sélections qui ont entamé leur Coupe du Monde en dents de scie, avec à commencer évidemment par l'Espagne, dernier vainqueur de l'Euro, qui a buté sur le Cap-Vert, déjà culte, grâce notamment à Vosinha, le gardien de but. Donc 0-0 entre les deux pays. L'archipel connaît déjà son plus grand exploit en mondial. Et l'Espagne, sur laquelle on pouvait avoir de légitimes questionnements, n'a pas rassuré sans Yamel titulaire. Donc grosse déception pour la Roja quand même.
Très grosse déception même, j'ai envie de te dire, vu le match qui était quand même maîtrisé de leur part dans l'ensemble, on va dire ça comme ça, de pas arriver à marquer et de concrétiser leurs actions. C'est dommage sur une équipe qui, quand même, si on peut se le dire, une attaque était quand même assez improvisée. On peut quand même se dire Gavi ailier gauche, Ferran Torres ailier droit, Oyarzabal en 9. Tu te dis quand même que bah du coup quand Williams et Yamal ne sont pas là, bah t'as l'impression que c'est un peu plus compliqué offensivement. Donc non, bah un premier match compliqué, très beau match des Capverdiens qui ont vraiment joué leur jeu à fond et qui ont essayé quand même d'aller au but de leur côté. Donc non, l'Espagne a malheureusement loupé le premier match et loupé le premier coche.
Bah effectivement, des Capverdiens quand même qui, tu l'as dit, ont été vers le but, qui auraient pu gagner cette rencontre à la fin de match. On a quand même 2-3 actions. Ça pose quand même question effectivement sur la qualité offensive de cette équipe d'Espagne. Sans Yamal, on sait que là, c'est très 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 compliqué. Mais ça pose aussi un autre questionnement. T'as parlé de Nico Williams. Nico Williams, il est quand même rentré à 5 minutes de la fin. C'est quand même un gros questionnement aussi que de ne pas le faire rentrer plus tôt. Et surtout, il est rentré, il a pas fait énormément de différence comparé à Yamal qui directement s'est activé sur son côté, qui a rendu l'Espagne beaucoup plus dangereuse. Donc c'est pareil, est-ce que cette équipe d'Espagne va pas être déséquilibrée aussi avec ces deux pans offensifs qui ne fonctionnent pas comme à l'Euro pour l'instant? Ça va être un questionnement pour le futur.
Un questionnement parce que les deux joueurs sont pas arrivés avec la même, il n'y a pas la même confiance, c'est aussi pas le même rythme, parce que Williams arrive avec une confiance un peu plus compliquée que l'Euro 2024 où il était en pleine bourre. Strasbourg. Yamal arrive aussi un peu moins en pleine bourre parce qu'il a été blessé et que bah il a fait quand même, malgré qu'il ait fait une très bonne saison, il arrive un peu blessé, le temps qu'il reprenne sa place sur le terrain. Donc non, je pense que l'Espagne il va peut-être avoir plus de mal à se mettre dedans. Par contre, si vraiment ça remarche comme en 2024, ça risque d'être un prétendant quand même encore une fois qui va faire beaucoup de mal à ses adversaires.
On verra contre des plus grosses équipes. On sait généralement les outsiders de toute façon en première journée sont les favoris à faire quelque chose. Donc le Cap-Vert l'a fait. Autre déception, donc c'est la Belgique hein, quand même, puisque les Diables Rouges pouvaient se vanter de faire partie des outsiders un peu sous côté de ce mondial, très peu cité et à juste titre, mais avec des ressources offensives assez intéressantes quand même. Hein. Face à une Égypte qui n'a pas coutume de briller récemment en Coupe du Monde, le rendez-vous pouvait être beau, mais a vite viré au cauchemar, quasi privé d'un Doku, souvent pris par deux à trois joueurs, dont l'excellent mais tristement buteur contre son camp Mohamed Hani. Il aura fallu attendre la rentrée de Lukaku pour commencer à rêver de nouveau. Une envie qui fut de courte durée. Les Belges ont été coupés dans leur élan par la pause fraîcheur et n'ont pas vraiment convaincu ensuite. Score final un partout. Fébrilité défensive et lisibilité offensive pour la Belgique et gros match collectif de l'Égypte, hein, récompensé par le but d'un Emma Machour qui m'avait plutôt agacé pendant la CAN, mais qui se rattrape. Premier coup d'arrêt donc pour la Belgique qui devra changer la donne contre l'Iran et la Nouvelle-Zélande qui ont fait match nul dans la nuit. Coup d'arrêt prévisible pour toi de la Belgique?
Prévisible, je sais pas, parce qu'ils avaient quand même une bonne préparation et quand même ce 5-1 contre la Tunisie qui était quand même prometteur. Et du coup, je trouve ça, un peu dommage de leur part de pas réussir à continuer sur cette ligne-là. Mais en même temps, l'Égypte a joué un très beau football hier. Ils ont pu même gagner le match à la fin quand ils ont poussé. Et puis même, ils avaient des très bonnes actions. Donc, encore une fois, la Belgique déjà peut remercier Courtois qui a encore été excellent et peut se dire que va falloir augmenter le niveau contre l'Iran et la Nouvelle-Zélande qui ont fait de leur côté un très bon match de ce que j'ai vu d'ailleurs autour. Donc, non, la Belgique a quand même du souci à se faire dans cette poule.
Et ça questionne aussi un peu le rapport à l'offensif de Rudy Garcia sur cette rencontre-là face à une Égypte quand même qui a eu un bloc défensif assez fort, hein, qu'on se le dise. Est-ce que mettre un Fernandes Pardo à la place d'un Trossard, ça aurait pas été plus intéressant par exemple?
Peut-être que ça aurait été mieux, parce que Trossard, on va dire qu'il fait pas une excellente saison, le match qu'il fait hier n'est pas non plus excellent, donc peut-être faire entrer un jeune qui en ce moment est en pleine bourre à Lille quand même, qui a fait une très bonne fin de saison et même une très bonne saison, je vais te dire. Donc non, oui, peut-être qu'il aurait fait du bien et que peut-être qu'un Trossard aurait été mieux sur le banc.
Après, on peut se questionner aussi sur le rapport tactique offensif du cas Doku par Guardiola, par Rudy Garcia, quand même qui est, parce que de base Doku était donc sur son côté gauche, ensuite a changé, était sur le côté droit en échangeant avec Trossard, ça n'a pas marché et derrière il a dû attendre peut-être 15-20 minutes encore pour le mettre en 10. Là, ça a fonctionné et à partir du moment où ça a fonctionné, ça a changé la dynamique offensive de la Belgique. Ensuite, tu fais rentrer Lukaku. Ça casse la dynamique offensive. Lukaku marque, super but. Et derrière, pause fraîcheur. Et alors ça, c'est quand même pas de la faute de la Belgique. Mais c'est vrai que cette pause fraîcheur, je trouve qu'elle pose quand même question. Pour le coup, on a un impact sportif très très clair là, puisque la Belgique a pas su remettre les bons ingrédients derrière.
Bah, la pause fraîcheur, elle vient souvent couper quand même les équipes, parce que quand même, c'est tous les 22 minutes à peu près. 22
ouais, c'est 23, une fois par mi-temps au milieu.
Mais du coup, tu te dis peut-être que, genre, il y a peut-être des moments où il faudrait peut-être repousser un petit peu pour laisser une équipe qui est en pleine bourre à ce moment-là, continuer à jouer son football, ou bien attendre, genre, un arrêt de jeu vraiment concret, un coup franc, ou bien une chose comme ça, parce que juste après le but, c'est quand même dommage de couper direct alors que l'équipe joue très bien, tu vois. Donc, il faut revoir ça un peu, je pense.
Bah puis là c'est juste direct le but, le but. Bon après c'est une pauvre fraîcheur qui pouvait servir à quelque chose parce que on l'a vu quand même, c'est très très chaud.
Oui.
Ça a impacté notamment De Bruyne. Je sais pas si t'as vu la photo sur le banc, il est soufflé le pauvre.
C'est De Bruyne, il a eu depuis son début de carrière, on remarque que dès qu'il fait chaud, souvent très rouge, il a beaucoup de mal. C'est pas un joueur qui aime tant, je pense, la chaleur.
Ça a été très marqué, ouais. En tout cas. Donc on verra pour la suite, effectivement, groupe de l'Iran, la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande qui restait quand même sur pas mal de victoires de suite. Hein, donc ce nul face à l'Iran, qui était quand même le favori, est pas vraiment choquant. Ce qui pouvait être plus ou moins choquant, même si quand on connaît le pays, c'est pas choquant. C'est l'Allemagne, quand même, qui s'est offert une victoire de prestige 7-1 sur le petit pousset du Curaçao, l'île la plus peuplée des Caraïbes néerlandaises et le plus petit pays de la Coupe du Monde. Et pour sa première, s'est offert une égalisation contre la Mannschaft, quand même, c'est à notifier. Avant de couler, donc une large victoire, une sélection allemande qui semble avoir enfin trouvé son 11 équilibré, qui plus est. Alors comment peut-on voir la suite de la compétition pour eux dans un groupe assez compliqué? C'est quand même la question qu'on va se poser. Groupe de la Côte d'Ivoire et groupe de l'Équateur.
Bah du coup, comme tu l'as dit, peut-être qu'ils ont enfin trouvé leur 11, donc ça peut-être être des matchs qui vont être un peu plus faciles, enfin dans l'approche, que des matchs où tu doutes encore sur ton 11. C'est un peu ce qui a été problématique quand même depuis maintenant quasiment 12 ans pour cette équipe d'Allemagne. C'est un 11 qui change beaucoup, des joueurs un peu instables, et là en fait de trouver peut-être enfin un 11 qui marche depuis 2024 quand même qui est un très bon euro à domicile, où bah tu te fais éliminer en quart contre l'Espagne qui est finalement vainqueur. Donc non, s'il trouve enfin le 11 qu'il faut, bah ça pourrait être pas mal. Et puis bon, le Curaçao a quand même fait une bonne prestation au début en marquant ce but, et malheureusement un coulé, mais j'ai envie de te dire que c'est une équipe qui est enfin assez faible comparée à l'équipe d'Allemagne. Donc c'est eux, je pense, c'est plutôt le plaisir d'être là pour la Coupe du Monde, découvrir, et enfin j'espère c'est pour ça, parce que sinon ça va être compliqué de pas prendre de plaisir sinon.
Il y a quand même eu des choses intéressantes dans cette équipe de Curaçao. Oui. On dit pas ça pour faire les hipsters du football.
Oui, bien sûr.
Notamment ce jeune Juninho Bacunha, qui a été très très bon, et qui a été très très bon et offensivement et défensivement pour un joueur qui est quand même plus à vocation offensive, donc ça c'est à notifier. Il y a quand même des choses dans cette équipe d'Allemagne que je trouve assez intéressantes, notamment ce double pivot, Pavlovic et Mecha. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce double pivot?
Bah, il est assez impressionnant, plus Kimmich des fois qui rentre, du coup, à vocation un peu comme Lame à l'époque, à rentrer en tant que latéral droit. Donc non, ce double pivot plus Kimmich qui rentre, je trouve ça intéressant. Et puis même, il a peut-être enfin trouvé la recette magique, Nagelsmann, pour que cette équipe soit équilibrée, plus une attaque quand même assez, enfin, très offensive, avec des Musiala, Leroy Sané, Wirtz et Havertz. Donc non, ça peut très bien marcher, j'espère. Et ça, j'espère pour eux que ça va continuer, parce que ça va être une équipe qui peut être très agréable à regarder.
Ouais, une équipe qui couvre pas du tout les ailes, c'est assumé. Ça fait aussi que Sané, moi je trouve que voilà, dans son positionnement, c'est pas vraiment intéressant, parce que il arrive, enfin ça reste assez compliqué. Alors son positionnement, c'est peut-être pas ce qui est le plus critique, c'est ses choix toujours, oui, à Leroy Sané, oui. Que je trouve assez mauvais. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui de base était un peu plus sur l'aile, un peu plus à vocation à faire des choses en contre-attaque, etc. dans sa jeunesse. Aujourd'hui, c'est totalement perdu, et c'est peut-être un joueur aussi qu'il va falloir sortir de ce 11 allemand.
Mais le truc, c'est que qui pour le remplacer, surtout ça. Parce que à la limite, tu avais je sais pas, Gnabry à la limite qui peut jouer à ce poste-là, mais je sais pas s'il est disponible. Ouais. Mais sinon, il est plus en 10 maintenant, donc c'est un peu je sais pas. Donc je sais pas qui peut être à sa place et peut apporter un peu plus de danger. Donc je sais pas, mais en vrai, il s'est un peu perdu, comme tu l'as dit. On avait le Rossané à City contre Monaco, je me rappelle, qui était vraiment excellent, qui vraiment faisait du bien. Et puis après le Bayern, la Galatasaray, c'est très compliqué. Donc à part si Nagelsmann trouve un joueur à sa place, j'ai l'impression qu'il risque de rester dans le 11 de départ.
Bon, après, c'est un joueur qui a été aussi capable de grandes choses. Donc on verra s'il arrive à retrouver ses petites étincelles. Par contre, il y a un joueur aussi qu'on n'a pas beaucoup vu, parce qu'on n'est pas non plus des gros consommateurs de Bundesliga, mais qu'on a pu découvrir quand même, c'est Nathaniel Brown. Je ne sais pas si tu as vu un peu ça. Trop fort. Nathaniel Brown, c'est un des qui va sans doute être recruté par le Bayern Munich, quand même, donc joueur de l'Eintracht, qui est hyper complet, hyper solide. Capacité de projection assez impressionnante aussi. Donc sur son côté, Nathaniel Brand, je pense que c'est un des gros joueurs à suivre de cette Coupe du Monde. Et on a enfin un penchant à Kimmich, avec pas du tout le même profil pour le coup, je trouve, mais du coup qui offre des alternatives aussi offensives au niveau des latéraux. On va continuer sur ce groupe E qui nous a offert l'un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde hier, donc avec la victoire de la Côte d'Ivoire sur l'Équateur grâce à un but en toute fin de match d'Amad Diallo. Alors gros match de Yann Diomandé, on va y revenir forcément, qui a fait sombrer Incapié sur son côté. D'ailleurs, c'était assez intéressant de voir quand même que Yann Diomandé était en 1v1 contre Incapié. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête le sélectionneur de l'Équateur, mais je pense qu'il a pas trop considéré Yann Diomandé comme le joueur qu'il est. Donc fin d'une série de plus de 2 ans sans défaite pour l'Équateur, 19 rencontres, et ce malgré un très bon match, il faut quand même le notifier. La Côte d'Ivoire, qui n'est jamais sortie des poules, peut-elle enfin le faire? C'est quand même la question légitime de se poser, puisque derrière tu vas pouvoir jouer le Curaçao, avec 6 points t'es censé logiquement sortir de ta poule. C'est quand même une très bonne opération pour la Côte d'Ivoire.
Ah, c'est même une très bonne opération, car comme tu le dis, s'ils battent la Curaçao, ce qui devrait normalement, dans la logique des choses, devrait arriver, à part si Curaçao nous sort un match excellent, que la Côte d'Ivoire s'écroule. Mais normalement, ça devrait être dans la logique des choses ça. Et du coup, je pense en tant que meilleur troisième, quoi qu'il arrive, ils devront sûrement passer les poules, même en tant que meilleur troisième. Donc c'est une bonne opération, parce que l'Équateur a quand même une équipe qui est défensivement très très bonne quand même. Quand on regarde l'équipe, c'est quand même pas mal, et comme tu l'as dit, Diomandé a fait beaucoup de mal à Incapié, et ça montre que ce joueur est pétri de talent, et que on comprend un peu plus pourquoi le Paris Saint-Germain et Liverpool saute sur lui en ce moment.
Ouais, ça va être un peu le joueur à suivre de cette Coupe du Monde quand même, Yann Diomandé. On va passer désormais aux deux gros chocs, hein, forcément, qui ont eu lieu, avec en premier lieu ce Maroc-Brésil, match nul 1-1 entre les deux sélections, un résultat et surtout une rencontre que je trouve peu encourageante pour la suite de la compétition du Brésil, et ce malgré le nul face à un Maroc que je voyais quand même vachement favori. T'en as pensé quoi de la performance de la Seleção?
Bah la Seleção, comme tu dis, c'est un peu problématique, c'est que tu dis que offensivement un peu plus compliqué, défensivement il y a ce but du Maroc où tu dis que la défense se fait, enfin, et trop écarté, il y a un problème. Donc non, ça peut être très compliqué pour la suite de la compétition. Un numéro 9 qui n'est toujours pas trouvé, Hendrik qui a fait des matchs de préparation, au final qui se retrouve sur le banc, Vinicius qui marque un but mais qui fait pas non plus un match excellent, ça montre que même le leader offensif ne monte pas encore la voie. Donc non, ça risque d'être très compliqué. Et puis bon, malheureusement Neymar ne sera sûrement pas de la partie des phases de poule. Donc c'est là où tu dis que bon, pour l'instant ça va être très compliqué pour cette équipe du Brésil. Et comme tu dis, le Maroc a fait une très bonne prestation et il aurait mérité de gagner vu le match proposé par les Marocains qui, je pense, vont encore nous surprendre sur cette compétition et ça risque d'être une équipe qui va encore faire beaucoup de mal.
C'est vrai qu'on a quand même pas mal de questionnements par rapport au Brésil. La paire de latéraux.
Déjà, oui.
Quand même assez compliqué. Rafinha qui est toujours aussi transparent en sélection. Voilà. Vinicius qui est censé être ton leader offensif mais que tu ne fais pas jouer comme tel. Puisque, je sais pas, il doit pas toucher de ballon avant la 15e minute, quelque chose comme ça.
Quasiment avant son but, j'ai l'impression qu'il en touche un ou deux et puis après.
C'est ça, alors que quand on voit sur le but, il est quand même capable d'éclairs de génie encore et même en sélection. Donc ça pose vachement question. Paqueta aussi quand même, qui doit bien s'amuser au Brésil. Hein. on le conteste pas. Mais la sélection, la Coupe du Monde, c'est quand même autre chose. Il a pas fait un très grand match, même si encore une fois, des fois, il a des gestes fantastiques comme ça qui sont géniaux, des sombreros, des trucs.
Ça suffit dans des matchs contre des équipes, je pense au Brésil, comme tu dis, il doit bien s'amuser, mais là, ça suffit plus contre des équipes à un niveau aussi élevé que, comme une équipe du Maroc qui, quand même, a fait une dernière Coupe du Monde bien meilleure que celle que le Brésil nous a proposée.
Et puis 30 premières minutes, affolantes. Le niveau de Boadi sur la rencontre. On y reviendra aussi pendant la Coupe du Monde, je pense que c'est un des.
On peut s'en mordre les doigts de pas l'avoir pris en équipe de France.
Ouais, carrément. Mais après, c'est très bien. Ça pour lui. Aussi des choses aux Marocains et tout. C'est très très cool. Donc, c'est un des gros milieux de terrain du futur, quand même. L'autre rencontre, donc l'autre gros choc, c'était ce nul entre les Pays-Bas et le Japon. De partout, et le Némésis, un niveau momentum de ce Brésil-Maroc avec une première mi-temps plutôt ennuyante et un deuxième acte assez génial. Les Japonais qui sont revenus deux fois au score grâce à Keito Nakamura, le premier joueur de Reims depuis Raymond Kopa, attention, à inscrire un but en Coupe du Monde, et Daichi Kamada d'une tête en toute fin de match dans un groupe composé d'une très faible Tunisie, d'une Suède peu emballante mais victorieuse malgré tout, 5-1 sur les Aigles de Carthage. La balade de santé ne sera vraisemblablement pas mise à mal pour les deux pays, un Japon toujours aussi solide mais surtout des Pays-Bas plutôt rassurants quand même. J'étais pas très confiant avant la Coupe du Monde pour ces Oranges, au final c'est quand même plutôt intéressant. Deux fois meneur, face à ce Japon, c'est quand même une très belle chose.
Les deux équipes ont joué leur football. On va dire que les Pays-Bas, au début, ont essayé. Le Japon a gardé un bloc assez médian, assez bas, du coup, ce qui faisait qu'ils avaient très peu d'espace. Et au final, grâce à deux buts, quand même, Summerville vient quand même faire un très bon match, je trouve, pour quelqu'un qui n'était pas attendu à ce niveau-là, pour cette compétition où il était attendu comme un super sub. Alors que là, au final, titulaire, il prend ses responsabilités, il marque, donc non. Puis Van Dijk qui marque aussi. Donc non, comme tu le dis, c'est une équipe qui, défensivement, quand même, est très solide. Et derrière, qui a quand même des individualités offensivement qui vont pouvoir peut-être faire du bien avec Summerville.
Gros match aussi du milieu de terrain, forcément, notamment Gravenberch qui a fait une rencontre absolument folle. Mais c'est vrai que le cas Summerville, il est quand même intéressant parce que ça prouve que Coman, il est quand même assez lucide sur sa sélection. Parce que dans les matchs de préparation, la plupart du temps, c'était Malen à droite. Oui. Or, Malen fait une grande saison en neuf et beaucoup plus intéressant en tant que numéro 9, même si c'est un joueur qui est plutôt bon à droite, plutôt bon en neuf, qui avait fait une grande saison en neuf, mais c'est quand même un joueur qui se situe un peu entre les deux, qui est assez bizarre en termes de profil. Ce choix de Summerville, il est quand même vachement intéressant. Et derrière, surtout, les Pays-Bas l'a montré, mais a vraiment peut-être la meilleure défense de la compétition en termes d'individualité, quoi. Donc, si ça marche collectivement, parce que t'as quand même Van Ecke, Van de Ven, Van Dijk, et c'était qui le quatrième, je sais plus, mais t'as
Dumfries, t'as Frimpong aussi.
Oui, c'était Dumfries. Oui, Dumfries, qui était du coup super dans son association avec Summerville. Donc non, t'as une des meilleures défenses de la compétition.
Et même au milieu de terrain, quand même, si tu regardes Reinders, De Jong et Gravenberch, c'est très fort. T'as Timber qui peut rentrer, des très bons joueurs, très bons jeunes aussi. Donc non, ils peuvent faire du bien si ça marche, si la sauce prend, quoi, sur tout ça. Mais pour l'instant, comme tu dis, Coman, il s'adapte un peu aussi à son équipe avec Summerville, comme tu dis. Il met deux pailles sur le banc parce qu'il sait qu'il est pas encore prêt physiquement, alors que c'est quand même le leader de l'équipe depuis des années. Donc non, je pense que ça peut faire du bien si tout se passe bien.
Il y a des choses à faire avec ces Pays-Bas qui ont quand même tenu en échec le Japon, où je voyais grand favori de cette rencontre.
Aussi, d'accord. Donc quand même deux équipes qui sont regardées droit dans les yeux. Donc non, ça, c'est de bon augure pour les deux.
Et puis dans les autres résultats majeurs, la Corée du Sud a créé quand même une petite surprise en s'imposant face à la Tchéquie dans un Très beau match aussi. Les États-Unis se rassurent en battant 4-1 le Paraguay. Grosse surprise aussi que fut ce nul entre le Qatar et la Suisse. Victoire de l'Écosse. Premier but de McGinn en Coupe du Monde face à Haïti. 1-0. Défaite de la Turquie aussi face à l'Australie. 2-0. Et match nul d'entrée pour l'Uruguay face à l'Arabie Saoudite. Ce soir, c'est la rentrée en lice des groupes I et J. Donc ceux des deux derniers finalistes de la compétition. Nous aurons donc le droit à un Irak-Norvège, un Argentine-Algérie et un Autriche-Jordanie. Mais aussi... Avant cela, évidemment, c'est la rentrée dans la compétition des Bleus. Match importantissime face au Sénégal à 21h. C'est dans 35 minutes. C'est un gros morceau d'emblée. Peut-être la plus grosse équipe qu'on va rencontrer avant les huitièmes de finale potentiellement. Et ce match face à l'Allemagne, si tout se passe comme prévu.
Mais oui, ça va être le match le plus dur, je pense, même si la Norvège n'a pas été un morceau très, très facile à manœuvrer. Mais oui, le premier match qui va être très dur, même contre les champions d'Afrique, on va dire, sur le terrain, on va dire avec tout ce qui s'est passé, mais les champions d'Afrique qui ont reçu le trophée sur le moment. Donc non, une équipe qui est quand même très bonne au niveau du milieu de terrain. Je trouve aussi le Sénégal qui va poser beaucoup de problèmes à ce niveau-là, une défense assez solide. Donc ça va être deux équipes qui vont bien jouer, j'espère. Et on espère une victoire de l'équipe de France quand même pour bien entrer dans cette Coupe du Monde, même si ça risque de pas être très facile.
Alors il y a les compos qui sont sortis, composition du Sénégal qui est assez encourageante pour nous, je devrais le dire quand même, avec notamment la titularisation donc du capitaine Kalidou Koulibaly qui avait pas joué depuis avril je crois. Quelque chose comme ça en club, il avait pas joué depuis avril et donc ces dernières minutes, c'est 10 minutes en préparation face à l'Arabie Saoudite parce que il faut le dire quand même, hein, le Sénégal a perdu son match de préparation face aux États-Unis 0-0 ensuite contre l'Arabie Saoudite. Donc c'est une équipe qui arrive pas forcément en forme mais qui arrive ultra motivé, avec des qualités énormes, un des gros outsiders quand même de cette Coupe du Monde. Et donc une équipe en 4-3-3 habituelle avec Diouf, Niakate, Koulibaly, Diata, un milieu de terrain donc Pape Gueye, Idrissa Gueye, Camara, et puis une attaque Mané, Jackson, Sarr. Là aussi donc Ismaël Assar qui sort d'une grosse saison avec Crystal Palace, et surtout une association qui a plutôt bien marché, que ce soit à la CAN mais aussi en match amico, je trouve, cette association entre Nico Jackson et Mané, qui a créé des ouvertures assez intéressantes. Ça sera quelque chose à surveiller, même si ça veut dire que Mané n'est pas en neuf, donc est potentiellement aussi moins dangereux, moins mis sur orbite.
Oui, peut-être, mais comme tu l'as dit, avec l'association avec Jackson a bien marché, donc peut-être que ça peut faire aussi du bien pour Mané d'être bien associé avec Jackson, parce que du coup les deux peuvent faire muter un peu, parce que Jackson est capable de jouer un peu sur l'aile aussi, je pense, avec ce qu'il peut proposer. Donc on verra bien comment ça se déroule, mais oui, Mané sera peut-être moins mis sur orbite qu'auparavant, mais on verra bien. Mais ça va être un beau match.
Ça sera un super match, grâce notamment donc à ce 11 de l'équipe de France et à ce quatuor forcément, donc le 4-2-3-1 habituel, mais celui auquel on s'attendait en tout cas, avec ces quatre offensifs géants. Donc dans les buts forcément on retrouve Mike Maignan, Jules Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez pour la défense. C'était prévu ça, le double pivot de Tchouaméni, Rabiot aussi. Et puis en attaque donc Olise, Dembélé, Doué, Mbappé. C'est une équipe qui fait peur sur le papier, qui est quand même un peu déséquilibré. Oui. Ça va être compliqué de gérer les contre-attaques du Sénégal. Franchement, même avoir Saliba titulaire, ça peut questionner quand même, parce qu'il était blessé. Au final, il est là. Pour toi, c'est une bonne chose?
C'est une bonne chose s'il est à 100%. Si malheureusement, comme tu l'as dit, il a été blessé, il y a eu beaucoup d'incertitudes, déjà avec le match contre la Côte d'Ivoire où il n'a pas joué, le match du coup contre l'Irlande du Nord où du coup il a joué mais il s'est fait remplacer à la mi-temps si je me trompe pas, ou un peu dans cette zone-là, enfin vers la 60e. Donc déjà ça peut questionner un peu sur son état, mais j'espère qu'il sera à fond parce que c'est quand même l'un des meilleurs défenseurs du monde, donc faut espérer que ça passe. Et derrière, c'est le quatuor, comme tu l'as dit, un peu déséquilibré avec un Dembélé en 10, Mbappé en 9, c'est un peu compliqué, mais si Deschamps les met, c'est que faut espérer qu'il ait la bonne solution, parce qu'on peut faire confiance au sélectionneur.
Mbappé aussi qui a dit en conférence de presse qu'il allait défendre. Alors là, si Mbappé défend, ça change énormément de choses quand même au niveau tactique, parce que le fait de mettre Mbappé titulaire, c'est quand même déséquilibré aussi ton bloc, avec un bloc offensif qui défend pas énormément et qui défend quand même un minimum. Mbappé, c'est un des pires défenseurs d'Europe au niveau des offensifs, même au niveau des joueurs tout court, qui est derrière des gardiens dans les statistiques européennes, donc ça questionne quand même beaucoup. Donc voilà, si Mbappé défend, ça peut être une très grande rencontre de l'équipe de France. Est-ce que ce double pivot de Tchouaméni Rabiot, t'as confiance?
Pas vraiment. Ouais. Genre, j'ai l'impression depuis 2022, Deschamps s'entête un peu avec ce double pivot, mais au final, il est pas trop complémentaire. C'est un peu deux joueurs qui sont un peu dans le même registre, capables de récupérer des ballons, de les distribuer, mais au final, qui apportent peu offensivement. Il manquerait un joueur qui pourrait apporter un peu plus, donc je sais pas. je sais pas la solution s'il y avait trouvé. J'aurais préféré peut-être un Manu Koné qui pourrait à la place de Rabiot faire plus de bien, je pense, ou Warren qui a fait une très bonne saison et qui, je pense, dans le registre un peu serait différent de Tchouaméni, où les deux sont trop, pour moi, trop identiques, Tchouaméni Rabiot. Donc peut-être que Deschamps a la solution, peut-être que ça marchera pas et peut-être qu'il trouvera une autre solution, mais je suis pas trop emballé par ce double pivot.
On connaît l'amour de Deschamps, hein, de toute façon, oui. pour Adrien Rabiot, oui. Qui sort quand même d'une bonne saison à Milan,
oui, quand même.
Mais moins intéressant individuellement parlant que soit Koné ou Zaïre Emery. Oui. Effectivement, après, est-ce que tu peux faire rentrer aussi Zaïre Emery dans ce 11-là, sachant que t'es censé avoir des qualités défensives propres au milieu de terrain? Est-ce que Rabiot a plus de certitude à ce niveau-là? Peut-être.
Je sais pas, parce que peut-être. Warren est capable de jouer latéral, donc défensivement il est capable d'être.
Ouais, mais justement au milieu de terrain comme ça, et puis enfin c'est quand même un milieu de terrain assez dense qu'on a aussi au niveau du Sénégal, donc il y a quand même ce questionnement de est-ce que tu dois compter sur l'expérience de Rabiot aussi. Pour faire face à l'expérience de Ganagay et puis tout le talent de Lamine Camara et de Pape Gueye aussi, donc il y a quand même des questionnements. On verra.
Voilà.
Dans tous les cas, c'est une première rencontre.
Voilà, c'est ça. C'est encore un peu en test, mais en même temps, du coup, il y a quand même des petits points à retravailler, donc on verra bien comment ça se passe, mais faut espérer que ça soit de la meilleure des manières.
Deschamps n'a jamais perdu une première rencontre en compétition majeure, en équipe de France, quand même, donc six victoires, 3 victoires en Coupe du Monde, 3 victoires à l'Euro.
Du coup, même fait match nul, donc que des victoires au final, match d'ouverture, donc faut espérer que ça continue.
Donc c'est pour ça, on va prier forcément. On va vous quitter aussi, parce que il va falloir qu'on aille voir le match nous aussi. On a des choses de prévues, de toute façon vous êtes habitués, hein, lorsque c'est soir de grandes rencontres comme ça, que ce soit Ligue des Champions ou Équipe de France, et on est obligé de se quitter un petit peu plus tôt. On va vous souhaiter un très bon match. La semaine prochaine, pas de rencontre de l'équipe de France, donc émission entière, on va pouvoir revenir sur plein de choses. Hein. On a la Coupe du Monde à débriefer, la NBA forcément avec ses finales remportées par les Knicks. On a le Critérium du Dauphiné aussi, le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, remporté par Isaac Del Toro. Donc énormément de choses. Mmh. On va vous souhaiter une très bonne soirée. On vous dit à mardi prochain et bon match.
Que vous ayez entre 16 et 25 ans ou non, Génération, c'est l'émission qui vous éclairera sur tout ce qui concerne la formation, la mobilité et l'emploi pour les jeunes. Entouré d'intervenants et d'invités qui travaillent quotidiennement auprès des jeunes, on vous présente les différentes filières de formation disponibles sur le territoire et les dispositifs d'aide auxquels ils ont droit. Génération, une émission que vous retrouvez un jeudi sur deux sur Radio G 101.5 FM.
All of this.
Sometimes life can keep me down with a face all in the dirt. Now if you feel that left behind, need to get up and go to church.
Yeah, slide into the mode. Time to drop a load. My life is going down here like some cardboard in the snow. My bank account is frozen. I don't think that I can get out this hole. Feel like the figure four leg lock, like the jury went away and then they came back deadlocked. I can't move, I can't eat, I can't even breathe. Can't even buy a decent sack without the stems and the seeds. No trees, no peas to ease the stress of everyday living. But homeless people gotta suck it up wherever they live in. The unforgiving or the unwilling. Live a life of sinning and expect to be as pure as an infant in the beginning. But
what about repenting?
What about detention? What about you eating dinner in the devil's kitchen?
What about repenting?
What about committing the same sin over and over again and again and again and again and again?
What are we here for?
Life is nothing
nothing but a dream, so peaceful and serene. Unless you're being evil, then you on the devil's team. I receive what you want to believe, but soon you'll have to sow those bad seeds. Any man can ask to get a pass or a cleansing of sin to grant another chance. Perhaps another glance of the light at the end of the tunnel. Talk to the coach and break out the huddle. Whatever should you fumble, your rebuttal should be subtle, because he who lives in the upper room is never gullible. As you survey the syllables and sentences, the question that I'm merely trying to pose is as simply as me saying,
what about repentance?
What about detention? What about you eating dinner in the devil's kitchen?
What about repenting?
What about committing the same sin over and over again and again and again?
Sometimes life can keep you down with your face all in the dirt. But if you feel that left behind, you need to get up and go to church.
Go talk about it and do the shit. Pull up on your block and we shoot shit. Pull up on your bitch and I'm hitting it. Oh, yeah. Hitting on your bitch and I'm killing it. And I ride and I talk about it and do the shit. And I ride and I talk about it and do the shit. And a little nigga with the ruler. And a little nigga with the ruler. Little nigga, on a nigga, y'all. I'm fucking on your little bitty, y'all. Simmons never heal figure, y'all. South Atlanta, yeah, we coming up. Ooh, push your middle fingers up. Pour it in my double cup. Ooh, a steno clip, double up. And I ride and I talk about it and shoot it up. Fuck little nigga, fuck nigga up. Fuck the cash up, cash up. Fuck the cash up, getting mad for. And I ride and I talk about it, just do the shit. And I ride and I talk about it. Got these niggas saying, yeah, he do that shit. Got these bitches saying, yeah, he do that shit. Got these niggas saying, yeah, he do that shit. Got these bitches saying, yeah, he do that shit. I let go that shit. And I ride and I talk about it, do the shit. Cardi do that shit. Cardi do that shit. They do this shit. OPO.
Radio G.
101.5 FM.
Sweetie little Jean, where did you go? Everyone's been searching high and low, and your mother's worried sick. Dearest daddy's lost his grip, while the whole world's watching. Candlelight vigils being held in silence on the channel 4. Taken you for
out a shaving kit.
Now I thought it was a razor and a can of foaming goo. But he told me right then when the top popped open, there was nothing his box won't do. With the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said you might not believe this little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said,
look here, brother, who you dabbing with that cosmic debris?
Now what kind of a guru are you anyway? You can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
I got the crystal ball,
he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
I got the newspaper around my head, so I looked like I was dead. I said some mumble. Hypnotized, he couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging around. I said,
the price of meat has just gone up and your old lady has just gone down.
Look here, brother, who you jumping with that cosmic debris?
Now is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher? So don't you waste your time on
me.